Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, où en sommes-nous dans notre histoire ? Il faut étonner la catastrophe, injonction qui traverse les siècles depuis la plume de Victor Hugo dans Les Misérables jusqu'à dernièrement la leçon inaugurale de l'historien Patrick Boucheron au Collège de France, leçon intitulée « Ce que peut l'histoire ». La question s'est peut-être posée à d'autres époques que la nôtre, en tout cas elle se pose aujourd'hui, un moment où les repères manquent et où il faut les construire. Car en effet, quelles images nous donne ce monde ? Quels repères produit l'actuelle parole politique médiatique, la guerre invisible de religion, de civilisation, le chaos, la faim, l'obsolescence programmée, autant de termes qui viennent marquer notre temps actuel d'un jalon final après quoi il n'y aurait que de l'incertitude, du vide et peut-être même rien. Mais l'avenir aussi a une histoire, comme nous le rappelle dans l'un de ses articles l'historienne Ludivine Bantigny. L'humanité, écrit-elle, est maîtresse de sa propre action et cette immense responsabilité face à la tâche à accomplir peut certes plonger dans un vertige, mais ce souci du monde et cette considération de l'avenir aussi font agir. C'est aussi de cette optique que partent les écrits, les réflexions à tendance révolutionnaire ou du moins alternative, le constat d'un manque d'avenir qui va de pair avec un manque de présent. Le comité invisible qui a signé l'essai L'insurrection qui vient remarque qu'il a fallu un demi-siècle de lutte autour des Lumières pour fondre la possibilité de la Révolution française. Alors une autre question se pose, sommes-nous conscients, nous, en ce moment, du temps dans lequel nous vivons, ce temps marqué par toutes les insécurités possibles, économiques, sociales, politiques, technologiques, écologiques liées à la menace terroriste ? Ce temps-là est-il vraiment celui d'une fin ou bien alors d'une transition, d'une renaissance ? Est-ce ainsi que toutes les époques parlent de leur présent ? Quels seront les mots et les images qui parviendront de nous, aux générations et au monde à venir ? Qu'en feront-ils ? Où en sommes-nous dans notre histoire ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Vous venez de publier aux éditions des Liens qui libèrent « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?» Nous en parlerons en détail au cours de cette émission. Avec vous pour en parler, Ludivine Bantigny est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu au Roussillon à Perpignan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences et membre du groupe de recherche d'histoire à l'Université de Rouen. Et notre troisième invité est avec nous au téléphone depuis Montréal. Il s'agit de Sarah Roubateau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié chez Michel Lafon « Lettres à ma génération », un recueil de lettres donc adressées à votre génération, mais aussi à Internet, à votre maîtresse, à Émile Zola. Lettres donc au pluriel. Et dans la première lettre qui donne son titre à l'essai que vous avez écrite après les attentats du 13 novembre dernier, qui a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux, notamment vous faisiez allusion à ces réactions post-attentat de gens qui postent sur les réseaux sociaux des photos d'eux-mêmes en train de boire un verre en terrasse et qualifiant ce moment d'acte de résistance. Et vous écrivez à ce titre dans votre lettre « Si un jour nos enfants se penchent sur cet épisode de notre histoire, je n'aurais pas de fierté à ce que le symbole de cette résistance ait été l'image de moi en train de boire un verre. J'aurais préféré une main tendue ou une oreille qui s'ouvre. » Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une difficulté particulière en ce moment à écrire notre histoire, à trouver les outils, les images et les mots qui vont nous raconter aux générations futures, Sarah Roubateau ?
Ben, on est surtout, je pense, dans un moment, une époque où on est dans la surreprésentation de soi via les réseaux sociaux. Et pour ma part, j'ai souvent l'impression qu'il y a un décalage entre ce qu'on représente de nous sans cesse et qu'on voit dans les médias et dans les réseaux sociaux, et puis les choses les plus intéressantes qui se font, mais qui se font loin des représentations. Et s'il y a quelque chose à transmettre pour les générations futures, si on veut montrer tout ce qu'on aura essayé de faire pour construire éventuellement une autre société, bah malheureusement tout ça, enfin malheureusement ou pas, mais tout ça n'est pas mis en représentation. On ne fait pas des selfies, les gens qui font des choses pour aider les autres dans les associations ou qui sont en train de penser à une autre manière de manger ou de cuisiner ou d'éduquer ne font pas des selfies. Voilà.
Ludivine Bantigny, est-ce qu'il y a aujourd'hui une difficulté à écrire notre histoire ? Vous écrivez dans l'un de vos articles la fin de l'histoire, dans la conclusion de cet article, la fin de l'histoire n'aura pas lieu. Vous dites que le 21e siècle n'a pas encore trouvé son épithète. Est-ce qu'il y a une difficulté à trouver les mots qui qualifient aujourd'hui notre histoire ?
C'est vrai que face à une question aussi vaste et aussi stimulante, je pense qu'il faut d'abord beaucoup d'humilité, même si c'est difficile d'en garder en peu de temps pour s'exprimer. Mais je crois d'abord qu'il faut relativiser ce sentiment d'une nouveauté à exprimer et à qualifier le présent, puisque sans remonter très loin dans l'histoire, au XIXe siècle, il y avait aussi chez les contemporains et les écrivains qui tentaient de saisir leur présent, le sentiment que ce présent leur échappait. On pense à Chateaubriand, par exemple, qui parlait d'une contemporanité qui s'enfuyait comme la couleur d'un tableau qui s'estompe. Alors, s'il y a une particularité, malgré tout, à la période que l'on vit, c'est que depuis les années 1980 environ, et c'est là que l'histoire peut-être nous aide à penser un présent même très contemporain, depuis les années 1980, on nous a beaucoup répété que désormais il n'y avait plus que du présent. Il n'y avait plus de recours possible au passé. On était dans une sorte de réaction à des idéaux contestataires, à des idéaux révolutionnaires des années 68. Et il n'y avait plus, de manière générale, d'alternative. C'est la fameuse formule de Margaret Thatcher, there is no alternative. Et donc, l'idée qu'on était enfermé dans une sorte de présentisme, et ça ne nous a pas aidé à penser notre histoire, parce que ça ne nous a pas aidé à favoriser la pensée d'autres choses, la pensée d'imaginaire aussi du futur. Ça, je pense que ça a été fondamental. C'est quelque chose, peut-être y reviendra-t-on tout à l'heure, mais cette idée d'un présentisme qui caractériserait notre époque, une sorte d'enfermement dans le présent, ça a été une formule un peu performative au sens où dire, c'est faire. Voilà, c'était exprimer ce présentisme, c'était aussi une façon de l'imposer. Et il me semble qu'on est en train d'en sortir parce qu'on s'aperçoit que histoire il y a, l'histoire se fait, et parfois évidemment tragiquement. Vous avez parlé tout à l'heure de guerre de religion, de guerre de civilisation. Moi, il ne me semble pas qu'il s'agisse fondamentalement de telles guerres, guerre de religion, guerre de civilisation.
Ce sont des termes qu'on entend dans le discours politique, oui, ou médiatique,
exactement,
mais qui ne reflètent sans doute pas la réalité que nous vivons, et pas celle dont on racontera l'histoire dans le futur.
Tout à fait. En revanche, bien sûr, c'est une sorte de réapparition de la guerre sur le continent européen, on l'avait un peu oublié, même si les guerres sont partout, et il y a aussi une responsabilité, une présence militaire des puissances européennes qui aujourd'hui redécouvrent la guerre, y compris sur leur propre territoire. Mmh. Et je ne pense pas qu'il faille renouer pour autant avec l'expression d'Huntington sur le choc des civilisations, voire la guerre des civilisations. Il s'agit de guerres qui sont fondamentalement politiques, sociales et économiques.
Bernard Stiegler, Ludivine Bantini parle de cette tendance à être enfermé dans un présentisme. Vous allez plus loin dans votre ouvrage, dans la disruption, comment ne pas devenir fou. Vous parlez de ce phénomène que vous définissez comme ce qui va plus vite que toute volonté individuelle. Nous sommes submergés par des innovations technologiques avant même que nous ayons eu le temps de formuler une volonté, un besoin. Cette impossibilité de formuler ces volontés tend à nous rendre fous. Et vous parlez de ce fait d'une absence d'époque.
Oui, je parle d'absence d'époque en me référant à un discours d'un jeune homme que j'ai commenté, qui s'appelle Florian, et qui dit « Nous sommes la dernière génération, ou l'une des dernières avant la fin ». Et j'ai essayé de montrer dans ce livre que, contrairement à ce que disent la plupart des gens, quand je leur parle de cela, leur première réaction, c'est de dire « Mais mes enfants ne disent pas du tout ça », etc. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. En général, les enfants, ou pas les enfants, pas forcément les enfants, mais nous pensons tous, en fait, que la fin est possible. Et même lorsque nous disons, en tant que philosophe, c'est pas la fin de la philosophie, ou en tant qu'historien, c'est pas la fin de l'histoire, etc., en même temps, nous sommes tous inquiets de la possibilité d'une fin. Mais pas forcément au sens de Alexandre Kojève ou de Fukuyama, qui étaient, par exemple, ceux qui ont, avec Huntington, enfin, pas Kojève, mais Fukuyama, ont promu par ailleurs une représentation de la supériorité de la race blanche, parce qu'il faut quand même parler clairement, c'est de ça dont il s'agit. Enfin, c'est pas comme ça que Huntington le présente, mais disons de la civilisation occidentale, appelons-le comme ça. Ce que je crois, c'est que oui, en effet, ce que disait Sarah Roubateau tout à l'heure, enfin, concernant les selfies, qu'est-ce que produisent les selfies et tant d'autres choses, les selfies étant une des choses qui a été frappante, en effet, par exemple, après ces attentats en France en 2015.
Donc ces selfies qui montraient des gens qui, en terrasse, en disant « on résiste, voilà, à la violence qui vient
après
nous frapper
le 13 novembre ». Voilà. Mmh. Eh bien, il court-circuite l'histoire, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui repose sur une technologie, la technologie numérique, dont il faut toujours rappeler, c'est un peu frappant et c'est une image parfois excessivement trompeuse même, mais néanmoins tout à fait, qui renvoie à une réalité tout à fait évidente, c'est que quand nous interagissons avec nos machines, par exemple, qui servent à faire des selfies, ce qu'on appelle les smartphones, nous interagissons avec des systèmes qui peuvent aller 4 millions de fois plus vite que nous. Et c'est pour ça qu'ils peuvent toujours nous prendre de vitesse. Puisque ces systèmes peuvent atteindre, dans des cas d'optimisation totale, 200 millions de mètres par seconde. Et que notre système nerveux fonctionne en moyenne à 60 mètres par seconde. Donc le différentiel est facile à compter. Et ça, c'est la base aujourd'hui de toute une industrie qu'on appelle la data economy. Et cette data economy qui est mise au service actuellement de ce que j'appelle moi la prolétarisation totale, c'est-à-dire qui se substitue, par exemple, à mes désirs, ou à mes volontés, ou à mes intentions. Par exemple, je veux faire quelque chose, j'interagis avec une plateforme, et cette plateforme me fait faire autre chose, en fait, que ce que je voulais. Je m'en aperçois même pas, d'ailleurs, parce qu'elle me téléguide en allant 4 millions de fois plus vite que moi, dans les cas les plus optimisés. Ça, ça change beaucoup de choses.
Et ça nous empêche de penser notre futur.
Ça nous empêche de penser tout court. Et cela nous soumet à ce que une juriste et philosophe belge appelle la gouvernementalité algorithmique, en reprenant des analyses de Michel Foucault, mais à l'époque contemporaine. Et là, je voudrais revenir sur la question de l'histoire. Parce que, pour s'interroger sur la fin de l'histoire éventuelle, qui est une hypothèse qui circule depuis longtemps, cela dit.
Hein. Oui.
Hegel l'avait introduite au 19e siècle. Il faut s'interroger sur le début de l'histoire. Par quoi commence l'histoire? Qu'est-ce qu'on appelle le commencement de l'histoire? Et là, il faut aussi lire Hegel, La raison dans l'histoire. Car, qui n'est pas un livre de Hegel, mais des notes de cours de ses étudiants. Et dans ce texte, Hegel parle de la naissance de l'historiographie, sachant qu'en français, à la différence de l'allemand, on ne distingue pas historie et geschichtlich, des Geschichtkeit. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas, le mot ne distingue pas l'histoire des historiens et l'histoire en train de se faire. Or, il y a une différence entre les deux, évidemment. Ce que dit Hegel dans ses cours, c'est que c'est l'écriture qui rend possible l'histoire. Ça se discute, bien entendu. J'y travaille moi-même depuis bien longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes bouleversés très fortement par ce qu'on appelle la disruption, parce que ce qui régissait les rapports interindividuels et la construction des événements, au sens où Pierre Nora aussi a parlé de cela, eh bien, c'était d'abord l'écrit. Puis ça s'est transformé avec les médias de masse et les industries culturelles au XXe siècle, et aujourd'hui, ça se transforme encore plus. Et c'est dans ce contexte-là que There is no alternative s'appuie sur un état de fait. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, ce qui est archi-faux, bien entendu. Mais c'est la force, malheureusement, de ce discours de s'imposer en s'appuyant sur un état de fait.
Alors, Bernard Stiegler faisait allusion à ces mots d'un jeune Florian Sarah-Roubato, un jeune homme qu'il cite dans son ouvrage, et une citation qui est d'ailleurs centrale dans votre ouvrage, Bernard Stiegler, vous y revenez souvent. Cette citation, c'est: quand je parle avec des jeunes de ma génération, ceux qui ont 2 ou 3 ans de plus ou de moins que moi, ils disent tous la même chose: on n'a plus ce rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants, un métier, des idéaux comme vous l'aviez quand vous étiez adolescent. Tout ça, c'est fini, parce qu'on est convaincu qu'on est la dernière ou une des dernières générations avec la faim. Vous, Sarah Roubato, qui vous êtes faite avec ce livre, le temps d'un livre porte-parole de votre génération, celle d'une jeune trentenaire française, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là,
de ce constat-là? Porte-parole, non. Je n'ai pas la prétention d'être porte-parole de ma génération, mais c'est sûr qu'une phrase comme ça, je pense qu'on est déjà prisonnier d'une vision, d'une dichotomie entre les pessimistes et puis les angélistes peut-être, et moi je crois qu'on peut très bien dire qu'on est à la fin d'un monde sans pour autant être catastrophiste. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent avec la terre ou avec les animaux dans la nature savent qu'il y a des cycles et des fins, et les historiens savent aussi qu'il y a des fins de civilisation, que les civilisations naissent et meurent. On est clairement au bout d'un système, oui, et notre génération n'a pas les mêmes rêves, ne peut pas avoir les mêmes horizons que celle d'avant, parce qu'on est justement à cet endroit-là. On est la génération qui fait le grand écart entre deux mondes. Et c'est très douloureux, c'est très pénible, parce qu'on ne sait pas quel va être l'autre monde. Donc, évidemment, on n'a pas les mêmes idéaux, c'est vrai, beaucoup de gens, en tout cas, n'ont pas l'idéal d'avoir une carrière, un métier, une famille, de vouloir avoir sa maison, sa voiture et partir en vacances quand c'est le temps des vacances. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de toute civilisation, de notre civilisation. Ça ne veut pas dire que rien n'est à inventer, parce que de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'on essaye d'inventer d'autres idéaux. Moi, j'ai d'autres idéaux et beaucoup de jeunes de ma génération ont d'autres idéaux, seulement comme il faut le construire.
Quels idéaux, par exemple ?
Ben, l'idéal, par exemple, de ne plus courir après le temps, mais de l'habiter. L'idéal que toutes mes activités, c'est-à-dire mes déplacements, le fait que je mange, le fait que j'utilise de l'énergie, que cela respecte le vivant. L'idéal, puisqu'on parlait des nouvelles technologies, que tout en étant connecté au monde, cela ne m'empêche pas d'être présente au local, au lieu où je suis, aux choses et aux êtres qui m'entourent. L'idéal aussi que je puisse exercer en tant que citoyenne la politique dans mon quotidien, que je ne la délègue pas. Voilà, une autre manière de voyager aussi, qui ne soit pas dans le tourisme de masse. Tout ça, ça peut être des idéaux qu'on porte. Moi, je partage les constats qui ont été faits, mais je suis assez désespérée, moi, du monde dans lequel je vis tel qu'il est. Je n'ai pas encore 30 ans et moi aussi j'en ai marre de voir les gens tout le temps sur leur téléphone. Moi je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai pas de télévision et j'ai moins de 30 ans et je vis très bien. C'est possible, c'est aussi des choix qu'on fait. C'est sûr que moi il y a beaucoup de choses dans le monde que je vois que je n'aime pas. L'amitié a changé, moi déjà depuis mon adolescence, l'amitié a changé parce qu'on communique dans le silence des textos et des chats et moi ça me manque d'entendre la voix d'un ami, évidemment. Mais c'est parce que je ne suis pas satisfaite du monde dans lequel je vis que je fais tout ce que je peux pour combattre ce que je pense qu'il y a à combattre et pour défendre ce en quoi je crois. C'est là où notre constat peut se transformer justement en force de transformation pour essayer de préparer éventuellement autre chose. Et même si on n'y croit pas ou même si ce n'est pas possible, au moins on aura essayé.
Alors votre désespoir, Sarah Roubato, faisait réagir Bernard Stiegler en studio.
Ce que disait Sarah Roubato, je le comprends très très bien, mais elle ne répondait pas vraiment à la question que pose Florian, à mon avis, parce que quand je commente cette déclaration de ce jeune homme, je ne dis absolument pas qu'il n'y a pas d'alternative, ou bien au contraire. Simplement, ce que je soutiens, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est même pas de l'ordre du désespoir dans ce que dit, selon moi, dans ce que dit Florian, qui est plutôt de l'ordre d'une espèce de sidération. Voilà. Mais par contre, j'ai bien noté que Sarah Roubato dit « je suis désespéré ». Et tout le monde l'est un petit peu par moment. Parce que
d'ailleurs, vous le dites dans votre livre.
Et moi, je le dis beaucoup parce que je suis beaucoup. Je suis hanté la nuit par des terribles visions d'enfer, véritablement. Et nous le sommes tous, en réalité. Mais nous le dénions tous parce que c'est invivable. Et donc, ne serait-ce que pour pouvoir dormir, nous ne voulons pas imaginer le pire. Mais c'était l'objet de la réunion de l'ONU à Paris concernant le climat, puisque ça répondait à la COP21, ça répondait à un rapport qui est quand même, si on l'a lu, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est absolument extrêmement alarmant. Voilà.
En quoi ?
Parce qu'il explique que s'il ne se passe rien dans les 10 ans qui viennent, nous entrons dans un shift irréversible, c'est-à-dire dans un processus chaotique donc que personne ne pourra contrôler. Et c'est ce que disent aussi 22 scientifiques américains. Bon, bref, je pourrais vous en donner des centaines, en fait, parce que j'ai d'innombrables textes de ce genre qui ne sont pas des millénaristes ou des djihadistes qui disent ça. Ce sont des scientifiques. Après, il y a des scientifiques qui le contestent. Mais voilà, c'est l'état actuel du monde et de la mentalité du monde. Face à cela, le problème n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Parce que les optimistes, pour moi, ce sont des gens qui s'endorment pour ne pas assumer leurs responsabilités. Et les pessimistes, ce sont des gens qui s'endorment pour ne pas assumer leurs responsabilités aussi. Sauf que les uns disent c'est déjà joué d'avance, il y aura une solution, et d'autres disent il n'y a aucune solution, il n'y a plus rien à faire. Et je pense que c'est entre les deux que les choses se tiennent.
Alors, Ludivine Bantigny, Bernard Stiegler vient de faire allusion à ce texte de la COP21 en disant c'est effrayant parce que on lit que si on ne fait rien maintenant, en fait, dans quelques années, tout peut s'arrêter. Vous, dans votre article « La fin de l'histoire » que j'ai cité d'ailleurs, c'est un petit bout d'article que j'ai cité en début d'émission, vous dites que justement ça peut tétaniser cette responsabilité devant la tâche à accomplir, mais que c'est aussi cet état du monde aujourd'hui qui peut nous faire agir et donc faire histoire.
Oui, mais c'est le propre de la modernité que d'avoir découvert au fond que l'homme, au sens générique du terme, la femme aussi, sont les acteurs de l'histoire. Jusqu'à l'entrée dans la modernité, à la fin du XVIIIe siècle, on ne pensait pas l'histoire comme un processus agissant où les êtres humains avaient une profonde responsabilité et une action. Et donc finalement, moi je pense que bien loin d'être dans un postmodernisme, dans une postmodernité. Nous sommes au cœur de la modernité, c'est-à-dire face au vertige que représente cette responsabilité de notre action. Et que, en effet, cette ère que les scientifiques ont théorisée et ont baptisée d'anthropocène, une sorte d'ère géologique où cette fois c'est l'espèce humaine qui est la plus agissante et souvent de manière catastrophique sur la nature, sur l'environnement, en est un exemple absolument terrible. Mais je rejoins Bernard Stiegler quand il dit qu'il ne faut être ni optimiste ni pessimiste, mais en tout cas agir. Et pour agir, il faut commencer par mettre fin aux fins, en quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire dire que...
On nous parle souvent de fin, donc on nous parle souvent de fin de l'histoire et de commencement, de renaissance, mais donc vous, vous dites qu'il faut mettre fin à la fin.
Et c'est-à-dire, il faut... On a bien mesuré à quel point ces théories de la fin des idéologies, hein, ça c'était l'essayiste états-unien Daniel Bell dès 1962 qui disait, voilà, c'est la fin des idéologies. Sentier qu'a bien évidemment emprunté Francis Fukuyama, qui estimait que le libéralisme économique, le néolibéralisme, hein, était ce qu'il appelait le point final de l'évolution idéologique de l'humanité. Ben, tout ça était évidemment des idéologies. C'était aussi un projet politique. C'était une façon, de la part de Fukuyama, c'était très net, hein, il y avait ce qu'il nommait l'arrière-monde. L'arrière-monde, alors il avait cette image d'un désert où bivouaquerait des civilisations supposément inférieures. Et puis, il y avait la civilisation occidentale caractérisée par le libéralisme économique qui serait arrivée au port. Et avec eux, l'histoire. L'histoire serait arrivée au port, serait arrivée au rivage et serait terminée. C'était évidemment un projet politique. C'était un projet notamment qui visait très clairement à en finir avec le marxisme, par exemple, avec l'idée qu'il y aurait du conflit dans l'histoire. Et ce qui était d'ailleurs intéressant et paradoxal chez Fukuyama, c'est qu'il reprenait une espèce de rhétorique marxiste, mais en disant que finalement, la lutte de classe était terminée, puisqu'elle était terminée dans le capital même. Bon, et en France, on a eu aussi, bien évidemment, des représentants de cette idée de fin. Par exemple, quand l'historien François Furet, qui, au moment du bicentenaire de la Révolution française, a été intronisé le roi du bicentenaire, quand François Furet disait « la Révolution est terminée », c'était bien, là aussi, une idéologie de la fin. Mettre fin au dissensus et finalement mettre fin à la conflictualité, c'est-à-dire fondamentalement aux politiques. Et donc là, on s'aperçoit aujourd'hui que, ben, évidemment, l'histoire n'est pas terminée, elle est sans fin, mais pour que nous ayons une
raison d'agir,
en tout cas une action, une action sur cette histoire qui ne peut se finir et dont nous sommes les actrices et les acteurs, eh bien il faut penser aussi des alternatives pour le coup, et justement sortir de cet enfermement dans la supposée fin née d'un capitalisme prétendument harmonieux.
Vos propos, Ludovine Bantini, me font penser à ce qu'on peut lire au début de ce livre sorti il y a quasiment 10 ans maintenant, L'insurrection qui vient, qui propose une réorganisation de la société pour renverser un système et faire histoire d'une autre manière. Un écrit révolutionnaire qui commence par « le présent est sans issue, le futur n'a plus d'avenir ». Est-ce que l'histoire commence quand on a admis que l'avenir ne pouvait ne pas exister, Bernard Stiegler?
En fait, je pense que si nous en avions le temps, et nous ne l'aurons pas aujourd'hui, mais
il faudrait
que nous discutions sur les mots époque, période, ère, etc. Du point de vue d'ailleurs, parce que chaque fois, comme disait Saussure, c'est le point de vue qui crée l'objet. Donc le point de vue d'un anthropologue n'est pas celui d'un géologue, qui n'est pas celui d'un historien, qui n'est pas celui d'un philosophe. Et donc par exemple, le concept d'ère entre la géologie, la philosophie, etc. est très diversifié. Mais nous aurions besoin de parler de cela, parce que Ludivine Bantini parlait d'anthropocène, et nous sommes dans l'anthropocène, en effet. Alors, c'est une notion très discutée, notamment par les géologues, d'ailleurs.
Donc, l'anthropocène, si vous pouvez expliciter, c'est ça?
L'anthropocène est une notion qui a été présentée en 2000 par Paul Crutzen, qui est un chimiste du climat. Il est défini par le fait que l'action de l'homme est devenue une force déterminante sur les autres, ce qu'on appelle les grands équilibres. Voilà. Alors, ce que je crois, moi, c'est que, en effet, nous entrons dans une nouvelle ère. Enfin, disons, nous devons entrer dans une nouvelle ère. Ce qui n'est pas fait, Et là-dessus, il ne faut pas être ni pessimiste, ni optimiste. Il faut le faire. Cette entrée dans une nouvelle ère, c'est ce que j'appelle moi la sortie de l'Anthropocène. Parce que l'Anthropocène, je l'écris pas comme tout le monde, je l'écris avec un E et sans H, c'est-à-dire je le décris comme une augmentation énorme dans la biosphère de l'entropie et qui détruit la biodiversité, la noodiversité, c'est-à-dire la diversité de points de vue que les selfies remplacent, par exemple, et toutes sortes de transformations qui sont calamiteuses et qui reposent en fait sur l'épuisement des ressources. Et cela, ça suppose de comprendre que effectivement il y a des époques à l'intérieur d'air et que c'est beaucoup lié à de très grandes transformations techniques. Karl Marx et Engels, pour moi, ont été extrêmement importants. D'abord, à cause de ce qu'ils ont dit dans l'idéologie allemande, quand ils ont commencé à décrire l'être humain comme un être, ce qu'on appelle aujourd'hui avec Nicolas Georges-Courogen, un économiste et un mathématicien décédé maintenant, l'exosomatisation. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être qui produit des organes qui ne sont pas produits par le vivant. Et ces organes peuvent complètement modifier le rapport au milieu. Et aujourd'hui...
Et notre rapport au temps.
Et notre rapport au temps, évidemment. Et aujourd'hui, ils ont pris, avec l'accélération provoquée par la révolution industrielle d'abord, et aujourd'hui par les technologies numériques, une dimension telle qu'il y a cet élément de rupture. Et ça, ce n'est pas durable, parce que ça produit de l'entropie. Et donc, il faut entrer dans un nouvel âge de la négantropie. Je pense que c'est par là que passent les questions pour répondre à Florian et lui dire que non.
La négantropie, juste.
La négantropie, c'est un concept qui est très discuté, mais qui a été forgé par un physicien, Schrödinger, pour montrer que le vivant n'est pas, ne se soumet pas, disons, à l'entropie. L'entropie étant la flèche du temps, comme on l'appelle, qui fait que, irréversiblement, l'univers, qui est d'ailleurs en expansion, conduit à l'homogénéisation, à la dispersion de toute énergie. Et ce qu'a montré Schrödinger, c'est que c'est pas vrai du vivant. En tout cas, c'est pas vrai absolument. C'est-à-dire que relativement, le vivant a une capacité à retenir l'énergie, et non seulement à ça, mais à produire de la différenciation, de la diversification. Et ce que je soutiens, moi, avec Nicolas Georges-Courogen, c'est que le vivant humain, c'est-à-dire l'être exosomatique, produit un autre type de diversité, le langage, les idées, etc., mais qu'il produit aussi l'augmentation de l'entropie, et donc il est dangereux pour lui-même.
Alors avant d'aller plus loin dans notre réflexion, je voudrais vous faire entendre un court extrait d'une minute de la leçon inaugurale de l'historien Patrick Boucheron que je citais en tout début d'émission, leçon donnée au Collège de France, donc le 17 décembre dernier, et intitulée « Ce que peut l'histoire » sur ce que doit être l'histoire aujourd'hui et sur la manière dont on doit regarder l'histoire aujourd'hui.
C'est à une réassurance scientifique du régime de vérité de la discipline historique que nous devons collectivement travailler. Et j'ose la dire scientifique, en ce lieu si singulier qu'est le Collège de France, où se rencontrent à la fois et depuis si longtemps des textes anciens et des objets modernes. Les premiers nous intimant l'ordre de les lire lentement, les seconds précipitant notre désir de répondre au plus vite aux urgences du présent. Pour que les premiers s'accordent aux seconds, il convient de réconcilier en un nouveau réalisme méthodologique l'érudition et l'imagination. L'érudition, car elle est cette forme de prévenance dans le savoir qui permet de faire front à l'entreprise pernicieuse de tout pouvoir injuste, consistant à liquider le réel au nom des réalités. L'imagination, car elle est une forme de l'hospitalité et nous permet d'accueillir ce qui, dans le sentiment du présent, aiguise un appétit d'altérité. Si c'est cela l'histoire, si elle peut cela, alors, il n'est pas tout à fait trop tard. Et pourquoi d'ailleurs se donner la peine d'enseigner, sinon précisément pour convaincre les plus jeunes qu'il n'arrive jamais trop tard.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Où en sommes-nous dans notre histoire ? On tente de répondre à cette épineuse et vaste question avec le philosophe Bernard Stiegler, l'historienne Ludivine Bantigny et Sarah Roubato qui a signé « Lettre à ma génération » publié chez Michel Lafon. Alors on vient d'entendre Patrick Boucheron parler d'érudition comme forme de prévenance dans le savoir qui permet de faire front à l'entreprise de tout pouvoir qui consiste à liquider le réel au nom des réalités. Donc est-ce que la manière, Ludivine Bantigny, dont nous devons regarder l'histoire aujourd'hui relève d'un engagement? Est-ce qu'on doit s'engager dans notre histoire actuelle pour faire place au réel plutôt qu'aux réalités construites?
Oui, alors là aussi, ça mérite probablement une discussion plus longue que celle que nous pourrons avoir. Mais en effet, moi, je pense qu'il n'y a pas de neutralité dans l'histoire. Ni l'histoire, évidemment, qui se fait, et ni l'histoire qui s'écrit. Ce que je retiendrai notamment des propos de Patrick Boucheron, c'est ce qu'il nomme l'appétit d'altérité. Et c'est ce dont nous avons en effet besoin. L'appétit d'altérité, c'est-à-dire ce qu'on répète depuis le début de l'émission, me semble-t-il, à savoir le besoin d'alternatives réelles. Et non pas des changements qui nous ont été trop promis avec des promesses jamais tenues. Donc la question c'est comment ne pas se soumettre en effet ? Comment finalement refaire naître des insubordinations ? Et de ce point de vue, l'histoire nous aide à revenir à ces insubordinations, à redevenir des sujets, ou à le devenir, ou à continuer de l'être. Ce qui a marqué vraiment l'époque contemporaine depuis encore une fois les années 1980, parce que le début des années 80 a été à bien des égards un tournant majeur, pas seulement du point de vue socio-économique, mais quasiment en termes anthropologiques, qui tient à la nature humaine. Ce qui a marqué cette période, c'est une façon de vivre de nouvelles subjectivités. Il y a beaucoup de sociologues de philosophes, je pense à Christian Laval, Pierre Dardot, Frédéric Lordon, qui ont interrogé ce que le néolibéralisme faisait au sujet, aux individus, ce que le capitalisme néolibéral faisait des sujets qui doivent être compétitifs, qui doivent être en concurrence permanente, qui doivent être des entrepreneurs d'eux-mêmes, etc. Et c'est ce qu'a bien rappelé tout à l'heure Sarah Roubateau, c'est qu'il y a désormais une aspiration à sortir de cette injonction-là, de cette injonction à être dans la compétition par un nouveau rapport au temps. L'idée de décélérer, de lutter contre l'accélération du temps, qui est aussi une forme de compétition permanente, par un nouveau rapport aux politiques. Et là, on l'a vu au cours des derniers mois, et notamment du printemps, avec un mouvement social d'une ampleur exceptionnelle, qui lui aussi convoquait l'histoire. Parce que, par exemple, il évoquait 68, il évoquait les révolutions du passé, il évoquait la Commune. C'était passionnant de voir cette demande d'histoire et parallèlement à cette demande d'histoire, la fabrication de contre-savoir en quelque sorte, d'une dimension qui n'est plus seulement critique, c'est-à-dire qui n'est plus seulement défensive, mais qui se veut aussi constructive d'alternatives politiques. Par exemple, il y a un thème qui est beaucoup revenu depuis quelques années, c'est le thème du commun. Vous évoquiez Émilie Chaudet, le comité invisible et son livre « L'insurrection qui vient ». Il y a un terme que ce livre emploie et qui avait été un peu remisé au magasin des accessoires, c'est le terme de communisme. Et donc, assumer à nouveau une perspective de mise en commun, d'opposition à l'idée d'une propriété privée de tout, à l'idée que tout doit être objet de marchandise, tout ça forme vraiment une aspiration à d'autres désirs. Et je citais Frédéric Lordon, c'est intéressant aussi de mesurer, par exemple, le rôle qu'il a pu jouer lors de la dernière mobilisation, qui n'est pas achevée, qu'on a traversée au cours du printemps.
Alors, on va y revenir. Début de l'été. On va y revenir dans un instant.
Cette idée, voilà, simplement sur Lordon, c'est qu'intéressant, c'est qu'il propose aussi de réfléchir à un régime de désir qui serait alternatif aux désirs qui sont imposés, en quelque sorte, par ce capitalisme, à ce stade-là.
Alors, avant de revenir sur cette notion de désir et d'alternative, de proposition de contre-savoir. Sarah Roubateau, il y a une lettre dans votre livre qui m'a interpellée, c'est la dernière, la lettre que vous adressez à Émile Zola, la dernière du livre, donc où vous lui demandez si sa foi inébranlable en l'humanité serait toujours intacte aujourd'hui. Vous écrivez, vous avez cru qu'en montrant les choses, on pouvait les changer, que si les gens savaient, ils se révolteraient. Or, aujourd'hui, comme vous l'écrivez par la suite, on a accès à tout, on sait tout via Internet, et pourtant, ça n'aboutit pas forcément à un sentiment de révolte. Alors, il y a ce désir de changement, mais pas encore, et ça c'est peut-être le prochain stade, cette volonté de bifurcation, pour prendre le terme qu'emploie Bernard Stiegler, cette volonté de changer de direction.
Ben, c'est encore une fois parce qu'on est écrasé par l'information et la représentation. Quand on a trop d'informations qui nous parviennent de tous les côtés, ça, a fortiori quand c'est une information qu'on reçoit sur son écran tout seul dans sa chambre, ça ne nous engage pas à l'action, ça nous tétanise et la quantité qu'on reçoit est trop puissante pour le cerveau d'un seul individu. Donc c'est pour ça qu'en effet je posais la question, on sait tout, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce savoir, si tant est, s'il faut savoir, si c'est bien de savoir, c'est bien pour pouvoir mieux agir dans le monde. Un savoir qui me laisse stérile dans mon action dans le monde ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, on parlait en effet beaucoup d'action. C'est là qu'il faut sans doute se tourner vers un mode d'action qui échappe un petit peu aux réseaux sociaux, à la représentation. Et c'est là où je disais qu'il y a des centaines, des milliers de gens, y compris en France, qui, au quotidien, font des choses, mais eux, on n'en parle pas, ils échappent à la représentation. Et ce sont des gens, souvent, qui se considèrent plus comme des passeurs, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas voir les effets tout de suite de ce qu'ils sont en train de semer, mais ce sont des semeurs, puisque de toute façon, notre génération, on si tenté qu'on aura un autre monde qu'on essaie de planter, on n'en verra sûrement pas les effets, à moins de vivre 200 ans, 300 ans ou beaucoup plus. Donc tout ce à quoi on peut aspirer en termes d'action, si je veux pouvoir agir, c'est essayer d'avoir été l'un des rouages de ce passage éventuellement à autre chose. Mais ces actions-là, encore faut-il en parler, et d'où là la responsabilité.
Les actions auxquelles vous pensez, par exemple ?
Oh, ben, des actions comme, par exemple, tous ceux qui œuvrent pour créer des circuits courts pour l'alimentation. Moi, je voyage beaucoup en France, dans les zones rurales en particulier. Il y a des choses incroyables qui se font de ce côté-là. Également, la culture, d'amener du théâtre dans des zones rurales. Moi, je suis aussi allée voir en prison ce qui se fait. Je fais des portraits sonores et je suis allée voir quelqu'un, un ancien boxeur, champion du monde de boxe à Aubervilliers. Ben, lui, la boxe, il l'utilise pour aider les jeunes en difficulté dans les banlieues et pour leur redonner... Il travaille en fait avec des écoles et donc il allie le soutien scolaire et la boxe. Et lui-même me disait, les jeunes à qui on dit tout le temps qu'ils sont pas bons, qu'ils sont en échec scolaire et qui voient cette représentation à la télé, moi, je les mets devant leur responsabilité. Je leur dis, tu veux un job? Tu veux travailler dans ça? Si moi, je te trouve un travail demain, si je te trouve un stage, est-ce que tu es prêt à prendre tes responsabilités? Et là, rien que ce regard-là posé sur l'enfant change. Donc voilà, il y a des gens qui font énormément de choses comme ça, et simplement, encore faut-il en parler, et aussi, je pense, encore faut-il qu'on ait les moyens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont des envies, des idées, des savoir-faire, de l'imagination, mais on manque cruellement d'espace, d'opportunités et d'un lien intergénérationnel avec ceux d'avant. C'est-à-dire qu'on frappe souvent à des portes et les portes sont fermées parce que justement on nous dit ben non, c'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. On n'a pas toujours la chance d'être écouté, d'être pris au sérieux parce que ce qu'on propose est justement hors système, c'est nouveau. Mais je pense qu'il manque cruellement ce lien-là intergénérationnel.
Ce manque de lien intergénérationnel, il en est aussi question dans votre livre, Bernard Stiegler.
Oui, bien sûr, c'est même le cœur peut-être des choses, mais ça renvoie à la question que posait Patrick Boucheron, ainsi que Divine Bantini d'ailleurs, qui est la question du savoir. Car ce qui caractérise une société humaine, c'est qu'elle développe du savoir. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui détruit le savoir. Je pense que c'est ça l'enjeu de l'extraordinaire leçon inaugurale de Patrick Boucheron, parce que vraiment... C'est très impressionnant ce qu'il dit. Et que dit-il en fait ? Il ne le lit pas ainsi, mais c'est comme ça que je le lis. Il décrit un discrédit des savoirs. Il n'a pas, évidemment, il présente modestement les choses, donc il ne présente pas ainsi, mais je crois que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire un malaise du savoir. Et Ludivine Bantini parlait tout à l'heure de contre-savoir, mais je crois que c'est le savoir qu'il faut réinventer en totalité, parce que une grande partie de ce qu'on appelle le savoir aujourd'hui n'est plus vraiment du savoir. C'est de l'instrumentalisation des sciences et des savoirs au service de ce que Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, appelaient la rationalisation, où ils montraient que l'idéal des Lumières avait été renversé en production de bêtises artificielles par le calcul. Voilà. Alors ce que je crois, c'est que, ce que je retiens de ce que dit Boucheron d'abord, c'est qu'il parle de réassumer scientifiquement le régime de vérité. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une citation, régime de vérité, c'est Michel Foucault qui emploie cette expression, et je crois qu'il dit, philosophe qui inspire beaucoup Patrick Boucheron, je crois que Patrick Boucheron dit qu'il faut s'engager dans une véritable révolution des savoirs, un changement d'épistémé, si on reste dans le langage de Michel Foucault. Et là, la question est aussi le trop tard, puisqu'il il dit il n'est pas tout à fait trop tard. Qu'est-ce que ça signifie ? Qui a parlé du trop tard ? C'est Hegel. La chouette du Minerve arrive toujours trop tard. Ça voulait dire la philosophie arrive trop tard. Où et quand ? au début de la révolution industrielle, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle l'anthropocène. Aujourd'hui, c'est l'accélération de ce début, si je puis dire, qui a conduit à ce qu'on appelle l'anthropocène, plus précisément. Et qu'est-ce que dit Patrick Boucheron ? Il faut s'adresser aux plus jeunes. Il fait ça, il fait de l'histoire pour eux. C'est-à-dire qu'il veut renouer un lien entre les générations, qui est pas simplement intergénérationnel d'ailleurs, qui est transgénérationnel. C'est ça qu'on appelle le savoir, c'est transgénérationnel. Par rapport à cela, je pense qu'il y a évidemment... 1000 choses à faire, mais que ça suppose de repenser complètement ce que c'est que la nature même du savoir. Et ça suppose aussi de faire tout à fait droit à ce que disait Sarah Roubateau, qui est très important. Il y a des tas d'expériences. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ces domaines-là. Par exemple, le Peer-to-Peer Foundation. Michel Bowens recense énormément de démarches de ce type-là. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut passer un discours de macroéconomie qui permet de relier toutes ces choses-là et bien d'autres choses, y compris d'ailleurs en disant, là je suis pas complètement d'accord avec ce qu'elle disait avec ce boxeur, c'est pas le problème de dire aux jeunes, voilà, si tu veux un emploi, tu en trouveras.
Est-ce c'est que
pas
c'est une vrai. Question de responsabilité.
Il y en aura de moins en moins de l'emploi. Donc le problème, c'est de repenser complètement les choses. On ne peut plus développer une société basée sur l'emploi comme Keynes et le président des États-Unis, Roosevelt, l'avait mis en œuvre. Il faut rentrer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Ça, c'est l'enjeu d'un programme que nous lançons à pleine commune pour essayer de faire que les jeunes de la Seine-Saint-Denis inventent quelque chose de nouveau. C'est un programme avec la Maison des Sciences de l'Homme et dans le cadre d'un grand projet de 10
ans. Vous dites, Bernard Stiegler, du coup, qu'il faut complètement repenser notre système économique pour que le miracle dont vous parlez à la fin de votre livre, c'est seul un miracle. Miracle peut nous sortir, peut nous permettre de surmonter l'absence d'époque. Ça veut dire qu'il faut à la base repenser tout l'univers qui permette à ce miracle d'avoir lieu et donc l'univers économique.
Miracle entre guillemets, parce que que j'appelle miracle, c'est le fait que un système qui se clôt sur lui-même ne peut pas voir la bifurcation qui peut le sortir de là où il en est. Et je pense que c'est ce que la tradition des Écritures appelait des miracles. Maintenant,
je voudrais juste entendre Ludivine Bantigny sur cette question. Est-ce que le fait de faire histoire, c'est avancer, c'est surmonter cette absence d'époque et c'est donc permettre les conditions de la création du miracle tel qu'en parle Bernard Stiegler, Ludivine Bantigny.
Oui, je relativiserai comme Bernard Stiegler vient de le faire, la notion même de miracle, hein, puisqu'on est, au contraire dans de l'action, on ne peut plus terrestre et pas du tout métaphysique. Mais je pense que l'histoire se fait. Et alors, je vais être extrêmement pragmatique et concrète en faisant le lien entre ce qui a été dit sur les générations, le savoir, l'aspiration.
Ce sera en guise de conclusion.
Justement, au savoir. Vous savez, il y avait sur la place de la République à Paris, mais aussi ailleurs, des jeunes et de moins jeunes qui ont continué à s'asseoir, voilà, sur la place, pour essayer de mettre en partage leur savoir, leur savoir-faire. Je rejoins vraiment ce qu'a dit Sarah Roubateau sur le fait qu'il y a une créativité assez extraordinaire et un savoir qui est en effet réel, toujours très précis, toujours très informé et documenté. Et ces personnes qui souhaitent justement très pratiquement mettre en partage leur savoir et le faire agir, eh bien ont été dispersées par la police. Et je pense que c'est un symbole assez triste, mais c'est surtout le symbole de manière plus optimiste, d'un savoir qui est aujourd'hui réapproprié pour une autre vision du politique.
Donc une autre vision du politique et peut-être une autre vision de l'histoire qui est en train de se faire. Merci beaucoup à nos trois invités, Bernard Stiegler, Ludivine Bantigny et Sarah Roubateau, dans La disruption, comment ne pas devenir fou, de Bernard Stiegler. Donc c'est aux éditions Des liens qui libèrent, Lettre à ma génération de Sarah Roubateau, aux éditions Michel Lafon. Toutes ces références et bien d'autres sont à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, où vous pouvez réécouter, podcaster cette émission. Merci à l'équipe de France Bleu Roussillon qui nous a permis d'être en lien avec Ludivine Bantigny. Et un immense merci, bien sûr, à la brillante équipe du Grain à Moudre d'été. Ça a été une joie de travailler avec vous, Chloé Leblon, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, notre stagiaire hors pair. Merci à toi, Tanguy, et bonne route pour la suite. Lundi, c'est le retour d'Hervé Gardet et de toute son équipe à 18h20 pour du Grain à Moudre. Quant à moi, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce lundi 29 août et toute la semaine à 6h du matin, les petits matins, juste avant les matins de Guillaume Herner. À la réalisation, c'était Jean-Christophe Francis, accompagné ce soir à la prise de son de Jacques Hubert. Bon week-end à tous et à lundi, 6h sur France Culture.